RRB Rétro 2025.
Et la suite de nos rétros après la rétrospective de l'année en Nouvelle-Calédonie hors politique. Aujourd'hui, Jean-François Bodin, vous nous proposez un coup d'œil dans le rétroviseur de l'actualité nationale.
Sur le plan politique, la valse des premiers ministres s'est poursuivie en 2025 en métropole. Certes, sur un rythme moins effréné que 2024, une année qui s'était ouverte, rappelons-le, avec Élisabeth Borne à Matignon, remplacée par Gabriel Attal, remplacée par Michel Barnier, lui-même remplacé par François Bayrou. En 2025, il n'y a eu que deux premiers ministres, François Bayrou puis Sébastien Lecornu. Le rythme de la valse a donc ralenti, mais pas l'instabilité politique. Emmanuel Macron l'avait annoncé dès la fin de l'année 2024 en présentant ses vœux aux Français.
Je dois bien reconnaître que la dissolution a apporté pour le moment davantage de division à l'Assemblée que de solutions pour les Français. Cette décision a produit plus d'instabilité que de sérénité et j'en prends toute ma part.
Un demi mea culpa qui ne sauvera pas la place de François Bayrou, confronté comme ses prédécesseurs à une Assemblée nationale morcelée. François Bayrou joue un coup de poker. Le 8 septembre, il sollicite un vote de confiance des députés sur l'adoption de son plan budgétaire, mais il perd. Les résultats du vote de confiance annoncé par la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, sont sans appel.
Pour l'approbation, 194, contre 364. Conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du gouvernement.
Démission remise et on se demande bien qui va accepter de reprendre le flambeau et de s'installer sur le siège éjectable de Premier ministre. La réponse cette fois-ci ne tarde pas. Au lendemain de la chute de François Bayrou, Emmanuel Macron nomme Sébastien Lecornu pour le remplacer. L'ancien ministre des Outre-mer, bien connu en Calédonie, devenu ministre de la Défense, sait que la tâche qui l'attend est ardue. Mais dès la passation de pouvoir, il fait comme si...
On va y arriver. Il n'y a pas de chemin impossible. Il faut qu'on arrive à mettre fin au fond à ce double décalage. Le décalage entre la situation politique et le décalage avec ce qu'attendent légitimement nos concitoyennes et nos concitoyens. Mais je le dis aussi, il va falloir des ruptures, et pas que sur la forme.
Nous sommes le 9 septembre et patatras, 26 jours plus tard, le 6 octobre, 836 minutes seulement après avoir annoncé la composition de son gouvernement, Sébastien Lecornu démissionne.
En ce lundi matin, les conditions n'étaient plus remplies pour que je puisse exercer ces fonctions de Premier ministre et permettre au gouvernement d'aller devant l'Assemblée nationale demain.
La menace du départ de certains membres LR de son gouvernement alors que les questions budgétaires arrivent à l'Assemblée nationale auront eu raison de ce gouvernement qui reste aujourd'hui le plus éphémère dans l'histoire de la Ve République. Le 10 octobre, le lendemain de sa démission, Sébastien Lecornu est reconduit à Matignon et va arriver à former un gouvernement toujours en place aujourd'hui. Mais le Premier ministre n'a pas réussi à ce jour à trouver une majorité nécessaire pour faire adopter le budget 2026 de la France et l'instabilité politique perdure. En 2025, deux décisions de justice vont beaucoup faire parler d'elle. Le 31 mars, d'abord, Marine Le Pen, qui a perdu son père le 7 janvier, et plusieurs cadres de son parti sont condamnés dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Front National. 4 ans de prison, dont 2 fermes, mais aussi 5 ans d'inéligibilité. Une décision qui pourrait l'empêcher de se présenter à la présidentielle de 2027, inenvisageable pour Marine Le Pen.
Je ne suis pas prête à me soumettre à un déni de démocratie aussi facilement. Ce sont les électeurs qui, dans une démocratie, décident. Et moi, je viens leur dire ce soir, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas démoralisée, je suis comme vous, scandalisée. Je suis comme vous, indignée, mais cette indignation, ce sentiment d'injustice est un moteur peut-être supplémentaire au combat que je mène pour eux.
Marine Le Pen a fait appel du jugement et le procès en appel qui doit s'ouvrir dans quelques jours maintenant décidera peut-être de son avenir politique. Une autre décision de justice va créer beaucoup d'émotions. Elle envoie Nicolas Sarkozy en prison. Le 25 septembre, l'ancien chef de l'État est en effet condamné dans le cadre de l'affaire du financement libyen présumé illégal de sa campagne présidentielle en 2007. Le tribunal reconnaît qu'il n'y a pas eu de financement illégal, pas eu de corruption, pas eu d'enrichissement personnel, mais le condamne pour association de malfaiteurs, une peine assortie d'un mandat de dépôt, c'est-à-dire d'un passage par la casse-prison. Nicolas Sarkozy est bien sûr présent le jour où la sentence est prononcée.
Ce qui s'est passé aujourd'hui, dans cette salle du tribunal correctionnel de Paris, est d'une gravité extrême pour l'état de droit, pour la confiance qu'on peut avoir pour la justice.
Et Nicolas Sarkozy sait très bien qu'il n'échappera pas à la prison.
S'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute, je suis innocent.
Finalement, Nicolas Sarkozy rejoint sa cellule à la prison de la Santé le 21 octobre et reçoit de nombreux soutiens.
Le mettre en prison à cet âge-là, c'est honteux, vraiment. Et donc, c'est important qu'on soit réunis pour montrer des jeunes, des moins jeunes, la ferveur que nous avons pour un ancien président, pour le respect de la fonction.
Au premier jour de son incarcération, ses avocats déposent une demande de remise en liberté et l'ancien chef de l'État retrouvera la liberté après 21 jours de détention. Nicolas Sarkozy a fait appel de la décision prononcée en première instance. D'autres décisions de justice, cette fois-ci en matière criminelle, vont marquer l'année 2025. Le 28 mai, l'ancien chirurgien Joël Lescouarnec est condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour viol et agression sexuelle sur 298 patients. Le 17 octobre, Cédric Jubilard est condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son épouse Delphine. Le 18 décembre, l'anesthésiste Frédéric Péchier, reconnu coupable d'avoir empoisonné 30 patients dont 12 sont morts, est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. La métropole, confrontée en 2025 à une explosion de faits divers, refus d'obtempérer, usage de gaz hilarant de plus en plus fréquent par de jeunes conducteurs, attaque à l'arme blanche, mais aussi règlement de comptes multiples sur fond de trafic de drogue. Les trafiquants les plus dangereux sont d'ailleurs désormais placés dans deux prisons de haute sécurité à Vendin-le-Vieil et à Condé-sur-Sarthe. Les premiers d'entre eux rejoignent leur cellule d'isolement dès fin juillet. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, rappelle alors le but de ces établissements. Il s'agit d'isoler les narcotrafiquants.
Garantir le fait qu'ils ne parlent pas à l'extérieur, qu'ils ne continuent pas leur trafic de l'extérieur, qu'ils ne corrompent pas des agents de l'administration pénitentiaire, des magistrats, des policiers, des gendarmes, qui ne commandent pas leur point de deal, qui ne commandent pas des assassinats ou qui ne blanchissent pas leur argent.
2025 aura également vu une explosion des actes antisémites sur fond de conflits israélo-palestiniens. Dans ce contexte, la décision appliquée le 12 juin, qui élève Alfred Dreyfus au rang de général de brigade à titre posthume, a une valeur plus que symbolique. Elle parachève la réhabilitation de ce sous-officier chassé de l'armée française à la fin du 19e siècle, après avoir été accusé à tort de trahison dans une affaire sur fond d'antisémitisme qui avait défrayé la chronique. Le 19 octobre 2025, c'est la stupeur. En plein jour, plusieurs cambrioleurs s'introduisent dans le musée du Louvre. Il dérobe des bijoux d'une valeur inestimable. Un hold-up audacieux qui mettra en avant les failles sécuritaires pour protéger les œuvres d'art.
J'ai pas cru. C'est enfantin en fait d'avoir prendre des scooters, un monte-charge, une scie circulaire. Même mes enfants me posaient des questions en me disant mais comment ils ont fait maman en fait ? Où va l'argent des Français si c'est pas dans la sécurité ?
C'est dramatique. On était sidérés qu'on puisse rentrer comme ça dans le Louvre aussi facilement et aussi violemment. C'est catastrophique en fait pour la France.
Et les membres présumés de ce braquage hors norme ont été interpellés, mais les bijoux à l'heure actuelle restent introuvables. Et pour terminer, plusieurs personnalités nous ont quittés en 2025. Les hommes politiques Jean-Marie Le Pen, on en a parlé, mais aussi Jean-Louis Debré, Claude Allègre, le fondateur du SAMU social Xavier Emmanuelli ou l'essayiste Jean-François Kahn, mort également de l'auteur Paul Lussulitzer, de l'auteur et cinéaste Philippe Labro, de l'homme en noir Thierry Ardisson et de l'animatrice Evelyne Leclerc. La chanteuse Nicole Croisy a également quitté la scène et le cinéma est aussi en deuil de Bertrand Blier, Claudia Cardinal ou encore Tchéky Cario. Mais pour terminer cette rétrospective de l'année 2025 en métropole, rappelons que la France aura aussi perdu son icône, Brigitte Bardot, star parmi les stars, qui s'était retirée depuis de longues années pour se consacrer au bien-être et à la défense des animaux. Mais Brigitte Bardot aura laissé des traces indélébiles qui survivront à sa disparition.
Que m'importe de mourir les cheveux dans le vent. Dans le vent.
Et voilà donc pour cette rétro de l'année 2025, signé Jean-François Bodin pour l'actualité nationale. Rendez-vous demain midi pour l'actualité internationale et évidemment sur notre site internet le www.rrb.nc pour réécouter toutes ces rétrospectives. Merci à tous d'être avec nous. Il est midi passé de 6 minutes. On poursuit avec le Café Gourmand. Le prochain point sur l'actualité, ce sera à 13h avec le Flash.